États-Unis et bien plus encore, très influent à travers le monde, très prestigieux donc, et qui est en reportage aussi bien en Amérique du Sud qu'au Kosovo, qu'en Tchétchénie, en Irak, il ne veut pas y aller. Il désapprouve cette guerre, vous vous en souvenez, c'est en 2003, et il dit non, il ne faut pas faire cette guerre, alors que vous vous souvenez comment le montage, l'émotion de la propagande avait entraîné l'adhésion des Américains derrière George W. Bush pour cette guerre. Lui s'y oppose. C'est ce journaliste-là. J'oublie de dire qu'il a eu le prix Pulitzer, qui était le prix le plus prestigieux pour un journaliste aux États-Unis. Il dit non, on n'y va pas. Et le journal le poussera à la démission et il va démissionner et il va enfin trouver une parole plus libre après une traversée du désert difficile, mais maintenant il se bat avec sa force d'expression de journaliste, avec ses convictions, et il fait partie, on est aux États-Unis, de ces hommes ou de ces femmes qui sont seuls et qui se lèvent comme ça, qui deviennent des figures dans la foule et qui vont à contre-courant. Qui vont à contre-courant, mais qui sont aussi un courant à travers l'histoire des États-Unis. En 1905, Theodore Roosevelt appelle ces journalistes-là des muckrakers, c'est-à-dire des fouilles-merdes. Vous êtes des fouilles-merdes. Pourquoi ? Parce qu'ils font simplement leur métier. Ils s'appellent, par exemple, Upton Sinclair, qui écrit un bouquin, La Jungle, The Jungle, sur les abattoirs de Chicago. Et à la suite de ce bouquin, un petit peu comme le Tralbert Londres à nous, mais sans doute beaucoup plus radical, eh bien, les abattoirs de Chicago changeront complètement. Et je vous conseille de voir les photos d'un type qui s'appelle Jacob Riis, un photographe qui, en 1890, sort un bouquin de photos intitulé « Comment vit l'autre moitié des habitants de New York ». Et il montre des pauvres, il montre des clodos, et il montre des ouvriers qui n'ont absolument rien. Et il montre cette Amérique-là. C'est cette Amérique-là qui inquiète et qui hante Chris Hedges. Et ce qui le hante encore plus, c'est comment ceux qui se prétendent être les progressistes, cette élite progressiste a complètement lâché et a coupé les ponts, n'a plus de lien avec cette Amérique qui souffre, qui est avide simplement d'égalité, avide de vivre, et qui finalement se barre vers le Tea Party et se barre vers la droite, et vers l'extrême droite peut-être. Évidemment, vous avez compris qu'il a pas mal d'analogies avec ce que nous vivons, nous, en France et en Europe. Voilà pourquoi nous sommes avec ce journaliste dissident, indigné et en colère, Chris Hedges, jusqu'à 16h ou presque. C'est la Bassi Jissou.
Face first in the trenches.
We set it off.
Come on, back for combat. We get it raw.
With
a counterattack over tracks, we build minds of the blind. Never calm when we bomb on neocons. Pump the level, the rebel to you. Never lose a leather devil. Break up my crew. Never nerve, but serve them with the words with purpose. It's the COINTEL killer, black hard truth, silverback. Still checking to see just who set to come along with brothers. Revive that movement. We're bringing the balance back. Never not violent attack, guerrilla funk and P.E. connect. So know when you're hearing the rhymes that I'm giving them, combined with the rhythm designed to expose the sins. All in is the master plan, until the curse is reversed. I'm saying rebirth of a nation.
Une bonne occasion de parler de votre métier maintenant, Chris. Comme vous dites, vous avez été pendant 20 ans correspondant de guerre, vous avez couvert la guerre, et vous avez longtemps travaillé pour le New York Times, et vous ne travaillez plus pour le New York Times.
I was a war correspondent for 20 years, so I was on the ground, Sarajevo, Gaza, Iraq, El Salvador.
Moi, j'ai été journaliste de guerre pendant plus de 20 ans, en Irak, au Salvador, Sarajevo, à Gaza.
The last war I covered the war in Bosnia and Kosovo, but I had done it for two decades, and I did not have the physical